Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Et maintenant, voici les vedettes de notre spectacle.
J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute.
Bon, bah lui, il va me prendre la tête.
Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises.
Ah non, c'est chouchou, je veux, pas la moche.
Zut, re-zut et re-zut derrière.
Ah, je vois, monsieur se fout de moi, monsieur fait du Ronny.
Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque?
Ben ça, c'est du spectacle.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Old is beautiful, le vieux c'est beau, et croyez-moi, je sais de quoi je parle, parce que je suis la troisième plus vieille de ce podcast. Prenez ça dans les dents, Simon et Nicolas. Salut les amis, comment ça va depuis vendredi?
Ça va,
ça va bien.
Ça va mieux que le souvenir hanté de Cocorico de Simon, je pense.
En tout cas, vous êtes toujours aussi beau.
Ça, c'est gentil.
Vous le voyez pas, mais moi je le vois et j'en profite. Je l'ai teasé dans l'épisode précédent, mais nous allons parler d'un réalisateur. Qui est le réalisateur préféré de l'un de vos réalisateurs préférés? Ça fait beaucoup de réalisateurs, mais en tout cas, nous allons parler de Michael Powell, qui est le chouchou de...
Martin Scorsese.
Ah, ça fait plaisir, qui n'a donc jamais arrêté de crier son amour pour le cinéaste britannique, particulièrement pour Les Chaussons Rouges. Mais aujourd'hui, nous allons débattre d'un film que l'on cite souvent comme l'un des films fondateurs du slasher.
Sergeant, I've been on the force 30-odd years, and I've never seen such fear on anyone's face as on this girl's. What was it she saw?
Mark, are you crazy?
Yes. You think they'll notice?
Is that chap from upstairs?
Did you read about that girl that was murdered last night?
Le Voyeur, de son titre original Peeping Tom, ressort en Blu-ray 4K Ultra HD édition limitée chez Studio Canal. On y suit le parcours trouble d'un jeune caméraman omnubilé par la création d'une œuvre visuelle où il réussirait à capter la peur ultime. Avec Karl Boehm, Moira Scherer et Anna Massey. La question que j'ai envie de vous poser, c'est... Michael Powell, oui, mais en fait, on le connaît surtout pour sa collaboration avec un autre grand réalisateur. Peut-être que Simon, tu veux nous en parler un petit peu.
Oui, Michael Powell, c'est un immense metteur en scène et qui a une carrière finalement, moi je trouve assez émouvante, assez touchante. Vous savez, on a tous tendance, c'est un peu normal, c'est classique en tout cas, à regarder, tiens, tel metteur en scène a commencé sa carrière de telle manière, etc. Powell fait partie de ces artistes qui sont arrivés... mine de rien, il y en a quand même un certain nombre, par le travail, l'artisanat et par des biais. C'est-à-dire que ça n'est pas quelqu'un qui s'est retrouvé metteur en scène à 25 ans, faire son premier film, puis son deuxième film, etc. Non, il a commencé comme photographe de plateau. Photographe de plateau, et pas n'importe quel photographe de plateau d'un certain Alfred Hitchcock, ce qui était une gageure à l'époque, parce que Hitchcock vouait une haine assez tenace aux photographes.
En plus... de manière générale, à tout le monde sur le plateau. Mais...
oui, voilà, mais tu vois, à partir du moment où il y a plusieurs témoignages qui précisent que spécifiquement aux photographes, je me dis, ça devait être quelque chose. Alors imaginez si vous êtes photographe et blonde, bah là c'est foutu. Bref, ce que je veux dire, c'est que donc il a collaboré quelques temps avec Hitchcock, et puis il va continuer à faire des rencontres, devenir quelqu'un qui commence à travailler du côté de l'équipe caméra, jusqu'à ce qu'il rencontre un immense artiste, Emmerich Pressburger. Emmerich Pressburger, avec lequel il va travailler à la mise en scène carrément, tant et si bien qu'on doit donc à ce duo, j'allais dire improbable, mais je sais pas pourquoi je dis improbable, on doit à ce duo...
Improbable de talent.
Absolument.
À ce duo très probable.
Quelques chefs-d'œuvre, mais vraiment des films matriciels de l'histoire du cinéma, comme Colonel Blimp, comme Le Narcisse Noir, Les Chaussons Rouges, et encore bien d'autres dont là je ne me rappelle plus.
Une question de vie ou de mort,
absolument. Et il faut savoir qu'il y a des rumeurs quand même assez persistantes qui indiquent que sur plusieurs de ces films, on va dire, Emmerich Pressburger travaillait de manière assez précise le scénario et laissait en fait la mise en scène à Michael Powell. Ce qui ne fait que, on va dire, rajouter encore à son talent. Il fait donc partie de ces grands auteurs masqués ou longtemps masqués du cinéma. d'autant plus que le film qui est peut-être son chef-d'œuvre, son absolu chef-d'œuvre, son œuvre la plus audacieuse, celle qui a tenté les expérimentations les plus dingues et celle qui a peut-être le moins vieilli, parce que vraiment c'est un film qui traverse le temps, c'est le film qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Le Voyeur. Or, Le Voyeur, c'est un film pour lequel il est crédité lui seul, c'est un de ses premiers, je crois son deuxième. Le deuxième film qu'il met en scène en son nom et qui va se faire pulvérisé par la critique, une critique qui à l'époque s'inquiète, s'énerve et s'agace d'un film qui lui semble malsain. Parce que c'est bien ça toute la question de Le Voyeur, c'est pas seulement un homme qui veut, comme tu nous le disais, capturer l'ultime terreur de femmes qui seraient donc des victimes, c'est quelqu'un qui est à ce point-là obsédé par la caméra, ou plutôt par l'œilleton, par l'obturateur de la caméra, par l'objectif de la caméra, qu'il en fait une excroissance symbolique, phallique, meurtrière. Et donc c'est un film qui va nous parler de la pulsion de voyeur qui peut éventuellement sommeiller chez beaucoup de gens, mais surtout de la pulsion de voyeur qui sommeille en tout spectateur, parce que par définition, un spectateur de cinéma, il est mu par une pulsion scopique. C'est donc un film qui effectivement anticipe les slashers, c'est un film qui, on va dire, traite son spectateur avec une certaine frontalité quant à tous les petits fantasmes bizarres qui l'animent, et donc c'est un film qui a bien failli ne pas être vu et apprécié, ni même ressortir, sans l'amour, et ça on va le détailler un peu, d'un autre cinéaste, en effet Martin Scorsese, qui a fait depuis des décennies beaucoup pour la cinéphilie, mais qui a notamment exhumé Le Voyeur, film qui n'était plus visible, et qui pour les rares qui s'en rappelaient, était vraiment traité comme une espèce d'horrible merdaillon.
Alors j'ai une petite anecdote un peu rigolote. Michael Powell et Scorsese se sont rencontrés, hein, parce qu'il est mort très vieux, Michael Powell. Enfin, il est mort en 1990. Il est mort du coup à 85 ans, je crois. Ouais, 85 ans. 84. Et ils se sont rencontrés du coup relativement sur la fin de sa vie. Et il lui a présenté sa troisième femme. Parce que la troisième et ultime femme de Michael Powell, c'est Thelma Schoonmaker. La monteuse de Scorsese, il les a présentées et ça a été sa dernière femme de 1984 à 1990.
Incroyable.
Et je trouve que c'est une anecdote très mignonne.
Au passage, la plus grande monteuse de l'histoire d'Hollywood, Thelma Schoonmaker.
Qui est toujours en activité.
Oui,
qui avait monté Killers of the Flower Moon, ouais. Bah, pour revenir sur ce que disait Simon et un peu parler de la censure, il faut savoir qu'il y a plusieurs choses. Juste sur le qualificatif du film, j'ai trouvé une anecdote que je trouve folle. Quand le film a été édité en vidéo, donc là je parle vraiment années 90, 30 ans plus tard, avant que Scorsese vraiment essaye de remettre en valeur le film, il y avait deux scènes que Powell avait dû supprimer parce qu'elles étaient considérées comme trop difficiles pour le spectateur. On avait cherché à les retrouver, on les a pas trouvées. Le fait est que la VHS, quand c'est sorti, elle était interdite moins de 18 ans. La VHS était interdite moins de 18 ans et qu'ensuite on a sorti la version Blu-ray, elle était interdite moins de 15 en Angleterre. Et là encore, alors que, on peut le dire, on voit pas de violence à proprement parler.
On en voit peu
et en fait tout le jeu c'est de nous faire croire qu'on voit tout alors que non. Sur la censure à proprement parler, ce qu'il faut raconter c'est que le film sort la même année qu'un autre grand film de tueurs malsains où il y a aussi question de Freud et autres, qui est Psychose d'Alfred Hitchcock que tout le monde a vu ici.
Bien sûr.
Que tout le monde a vu ici.
Bah oui. Ah putain, c'est vrai que je l'avais pas vu. Oui, mais maintenant.
Loin la détente, le gars, quand même.
Et je vous ai dit, je suis fatigué. Mais oui, maintenant, oui.
Mais en fait, ce qu'il faut raconter, c'est que Psychose sort plusieurs mois après Le Voyeur. Et Hitchcock apprend des erreurs de Powell pour ne pas les reproduire. C'est-à-dire que Michael Powell fait le circuit traditionnel des projections presse, il le montre un petit peu avant. Avant de sortir, il se fait défoncer par la critique, il se fait défoncer aussi par le comité de censure, parce que c'est rigolo de parler en 2024 de censure pour parler des films, faut oublier qu'il y a 60 ans, c'était quand même un autre sujet. On le traite de tous les noms, de malsain, de voyeur, etc. Et Hitchcock, du coup, quand il prépare Psychose, il comprend qu'il a fait un film qui va aborder un peu des thèmes un peu similaires. Il se dit, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais pas le montrer à la presse. Et il le sort sans le montrer. Et il se passe quand même un truc, c'est pas lié à ça, hein, parce que malgré tout, Psychose se fait défoncer par la critique. La seule distinction qui se passe entre les deux, c'est que Powell va souffrir énormément de ça et ne pourra pas vraiment refaire de film. En tout cas, pas de cette manière-là, là où Hitchcock se fait défoncer, mais en fait, comme Marnie s'était fait défoncer et comme d'autres films s'étaient fait défoncer,
après sa sortie,
et ce qui ne l'empêche pas de continuer sa carrière. Là où pour Powell, c'est un film qui a marqué malgré tout la fin.
Ouais, et en fait, là où les deux sont intéressants à comparer, c'est que tu sens que, bon, moi je trouve que les deux sont des très grands films, j'ai pas du tout envie de les hiérarchiser, surtout qu'ils se complètent très très bien, mais on sent qu'il y a quand même, dans la fabrication même des films, une certaine forme de prudence de la part d'Hitchcock, qui sait très bien qu'il est en train de réaliser un film très avant-gardiste et qui va être très choquant, notamment pour la fameuse scène de la douche avec son montage complètement expérimental. Et voilà.
Très belle imitation, Sophie.
T'as vu ?
sa musique terrifiante signée par Bernard Herrmann. Et le truc, c'est que Hitchcock, malgré tout, dans l'écriture, on a donc évidemment ce fameux motel où Norman Bates va s'en prendre au personnage de Janet Leigh.
D'où le nom de la série.
D'où la série, Bates Motel. Le truc, c'est que on commence le film, je crois que de mémoire, c'est pas Los Angeles, je crois que c'est San Francisco, en tout cas c'est une ville de la côte ouest américaine. Donc on commence le film de Hitchcock dans un décor très contemporain pour les spectateurs, mais on va s'en éloigner et partir dans un pur espace de cinéma très gothique et très, très stylisé, qui est donc ce motel avec cette maison bizarre qui surplombe le motel. Donc en gros, il y a l'idée que la violence et l'horreur dans le film d'Hitchcock se déroulent pas tout à fait dans un décor contemporain. Et puis il y a le deuxième point qui est quand même hyper important, le film d'Hitchcock, il est en noir et blanc. Donc à partir de là, on sait déjà que les effusions de sang et les effets gore du film vont être un petit peu amoindris parce que y a pas les couleurs et donc il y a un peu moins de texture et un peu moins de détails. Le film de Powell, il se déroule dans le Londres des années 60, dans un décor hyper contemporain pour le public et pour la critique de l'époque. Et lui, pour le coup, même s'il y a beaucoup de scènes de meurtre qui sont éludées, il y a quand même un rapport à la mise à mort, à la violence, à la nudité et au sang qui est beaucoup plus frontal et beaucoup plus brutal aussi que chez Hitchcock. Et c'est peut-être sur ces quelques différences-là que un film a réussi malgré tout assez rapidement à trouver son public, parce que Psychose, ne serait-ce que quelques années après la sortie, c'est un film qui est célébré et c'est le film d'un auteur célébré, là où Le Voyeur a été purement et simplement enterré pendant très longtemps.
Et puis ce qu'il faut bien voir, c'est que même si on va dire des questions de genre, d'identité de genre ou de sexualité ne sont pas absentes de Psychose, elles sont traitées de manière relativement caricaturale, assez tardive dans le film, c'est pas un gros problème pour le spectateur de l'époque. Punaise, dans Le Voyeur, on raconte quand même l'histoire, et pas à un niveau métaphorique, encore une fois, de manière très frontale, l'histoire d'un voyeur qui est avec une caméra, caméra qui, même pas symbolise, qui incarne et personnifie son pénis, qui incarne et personnifie son désir de capturer un orgasme tel qu'il soit synonyme de mort, et donc un personnage qui veut tuer avec cette caméra qui, je le rappelle, est son pénis. Non mais vraiment, tu vois,
et
ça, c'est un truc, c'est complètement inédit. Représenter un désir de mort et de sexe à ce point-là, enfin des désirs de mort et de sexe à ce point-là liés à l'écran, c'est à peu près inédit, je pense. Tu as toutes ces séquences donc avec ce personnage de tueur qui filme ses futures victimes, où manifestement leurs lèvres ne leur servent pas qu'à parler. Tu vois, à un niveau symbolique, je veux dire, et le film là-dessus est totalement transparent. Il n'y a pas besoin d'avoir l'esprit aussi mal placé que moi pour y songer en regardant le film. Le film dit ça, il le répète et il l'assène. Et puis on va suivre cette relation dangereuse et perverse entre cette jeune femme et cet homme. Cette jeune femme qui, quand même, on le sent, comprend bien que ce type, il est un peu dangereux, un peu bizarre, un peu louche. C'est-à-dire qu'on est dans un film qui rapproche mort, désir, sexualité et désir de mise en danger de soi d'une manière à peu près inédite. Enfin, je veux dire, pour les spectateurs de l'époque, c'est impensable de voir un truc pareil. C'est impensable que ce soit même représentable. Alors, peu importe qu'il n'y ait pas beaucoup de sang, peu importe qu'il n'y ait pas beaucoup de tripes ou beaucoup de nudité, ce que le film dit du désir, et encore une fois, du désir masculin, parce que c'est bien ça dont on parle. C'est-à-dire qu'il y a quand même une part du désir masculin, une frange du désir masculin qui est pas super tip-top. et donc forcément, dans les années 60, les gens hallucinent et les censeurs également.
Puis il y a quelque chose de très particulier. Le film est bourré d'effets de mise en scène assez avant-gardistes pour l'époque. Toi, tu parlais justement du lien entre meurtre qui sera propre au slasher et sexualité. C'est quelque chose qu'on va retrouver chez Mario Bava, mais quasiment 10 ans après, et dans une Italie qui est complètement différente de l'Angleterre des années 60 ou des États-Unis des années 60. Et puis on a, en termes pareil d'identification, c'est compliqué parce qu'on ne le retrouvera pas, selon moi, mais je peux me tromper, mais en réfléchissant, on a une caméra subjective. Et la caméra subjective de la part du tueur, je me suis creusé la tête et malheureusement, j'ai rien trouvé qui puisse renseigner ma...
Dans Psychose, figure-toi. Quand le personnage de Norman Bates épie à travers le trou du mur le personnage de Janet Leigh, on a un plan subjectif, mais c'est beaucoup, beaucoup moins frontal, encore une fois.
Non, mais c'est-à-dire qu'à ce point-là, pour moi, à part dans des films comme Maniac, ou même... En fait, j'ai du mal à avoir un plan aussi net que celui de Peeping Tom, enfin du voyeur, mais qui porte du coup bien son titre. Et du coup, il va placer le spectateur comme voyeur et donc déjà engendrer ce qu'on va faire de manière industrielle plus tard, donner au spectateur quelque chose qui l'attend de manière un peu perverse. Parce que c'est devenu un fonds de commerce du cinéma d'horreur des années particulièrement 2000. Ouais. Et ça, il a fallu attendre très longtemps pour qu'on se dise, en regardant Hostel, ah, le tendon d'Achille, quand est-ce qu'il le coupe ? Et bah, ou dans les destinations finales, où cette notion de je veux voir quelqu'un souffrir à l'écran devient une notion de fun. Là, on est dans une Angleterre et dans une époque où ne serait-ce que quelque chose de suggéré, mais de placer le spectateur comme personne ayant action via le plan subjectif est quelque chose qui est de l'ordre presque de l'immoralité. Et ça, je trouve que c'est fascinant. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres idées pour me renseigner, moi, de plans plan subjectifs horrifiques pré-années 60.
Il y a forcément un film expressionniste allemand obscur que personne ne connaît où il y a 3 secondes de plan subjectif.
Pas 3 secondes. C'est
des séquences entières.
Et puis rien qui est ce statut, tu vois. Et pour réussir à trouver un film qui va, alors c'est pas du plan subjectif, mais qui va travailler sa mise en scène de manière troublante et travailler la mise en scène autour de la figure du tueur comme centrale, il faudra attendre 8 ans encore après, quasiment, enfin plusieurs années, et L'étrangleur de Boston. Et là encore, ce sera difficile, ce sera pas évident. Mais voilà, il faut bien mesurer que Powell, il est à la fois incroyablement audacieux et complètement inconscient de filmer ce qu'il filme comme il le filme.
Parce que, on parle de Scorsese, mais évidemment que c'est ça qui a inspiré l'ouverture d'Halloween.
Bien sûr,
évidemment.
Il n'y a aucun doute.
Ça, c'est évident. Évident. Et puis tu parlais des giallos, je pense que ça a inspiré aussi un peu tous les giallos de manière générale.
Non, mais c'est extrêmement précurseur, en effet. Donc pour le giallo, pour le slasher, enfin vraiment, j'ai l'impression que c'est un film qui a inspiré tous nos réalisateurs de films d'horreur préférés et qu'ils y ont ils sont allés chercher quelque chose, notamment sur l'esthétique et sur la notion de caméra comme objet à la fois phallique et emprisonnant. Et je pense que Simon, tu veux rebondir là-dessus.
En fait, je pense que c'est un film qui, alors c'est tout ce que tu viens de dire là est juste, c'est peut-être parce que mieux et avant beaucoup d'autres, il arrive à saisir, sentir quelque chose de ce qui va arriver et de la nature de la société de consommation et de la société du spectacle. De comment on va se focaliser sur les objets. Ces femmes, ces victimes, ce sont des objets qui sont habillés d'une manière bien particulière, qui sont donc qui existent dans des écrins de vêtements, de textiles, qui eux-mêmes sont mis en scène de manière bien spécifique et sur lesquels l'attention du tueur peut se focaliser. Attention du tueur qui se focalise via un objet, la caméra, qui est un objet qu'il vénère et qui est un objet qui a un design particulier autour duquel il y a quand même toute une ambiguïté de scénario parce qu'on se demandera pendant un temps comment tue-t-il, et c'est un des enjeux du récit. Et donc, encore une fois, c'est bien une manière de travailler, sacraliser, mystifier, encore une fois, un objet. Et pas n'importe quel objet, je veux dire. Une caméra de cinéma, c'est pas un objet qui est fait par un artisan ou un luthier pendant des mois dans son atelier. C'est un objet de technologie de pointe à l'époque. Et voilà. Et donc, on est dans une société industrielle de consommation dont les créations vont commencer à devenir désirables. Et parce que c'est un désir qui est, encore une fois, industrieux et mécanique, c'est un désir de mort.
Oui, mais comme au final va l'être la valse des pantins de Scorsese, sur une espèce de...
Tout à fait.
De psychose au final un peu différente. Non, ça m'a fait penser aussi, de manière assez indirecte, et j'aimerais vous entendre dessus, au cinéma de De Palma. Quelque chose d'un petit peu tortureux psychologiquement, et malgré tout, je sais qu'on voit une restauration de très bonne qualité que vous pourrez retrouver chez Studio Canal, mais il y a quelque chose de presque pop dans les couleurs.
Mais bien sûr, mais regarde, tu parles de De Palma, Blow Up, Blow Out et Les frissons de l'angoisse de Argento pour aller sur le giallo, dont on dit souvent, et à raison, ce sont trois films qui sont liés esthétiquement, thématiquement, sur leur fétichisme de l'image, de son sens et de comment est-ce qu'on peut essayer d'enquêter sur qu'est-ce que c'est qu'une image, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une image et pourquoi ça se dérobe toujours à nos yeux. Mais ces trois films ne sont jamais que des échos du voyeur. On pourrait soutenir que ce sont des réflexions d'étudiants de cinéma, dans le bon sens du terme, sur le voyeur.
Mais en plus, il faut rendre à César ce qui est à César. Martin Scorsese n'a pas été le seul cinéaste à déterrer le voyeur. L'autre cinéaste américain, c'est Brian De Palma lui-même. Ce qui est intéressant sur la question de Palma, tu l'as très bien dit Simon, c'est que De Palma, il s'est intéressé à l'image de cinéma, mais il s'est intéressé à différents régimes d'image aussi. Mais il y a un truc qui est hyper impressionnant dans l'ouverture du film, c'est qu'on a donc ces images en vue subjective et on a au milieu de l'image cette espèce de croix caractéristique d'un œilleton de caméra. Et du coup, il y a un truc un peu presque rassurant où on se dit « Bon, ok, on n'est pas vraiment dans les yeux du tueur. On est en train de regarder à travers la caméra, mais en fait, on est la caméra nous-mêmes. On n'est pas vraiment le tueur. On est complice, mais on n'est pas vraiment le gars. » Tu vois ce que je veux dire ? Il y a une espèce de mise à distance parce qu'on a cette croix qui nous rappelle que on n'est pas en train de regarder le réel à travers des yeux d'humains, on est en train de regarder le réel à travers une caméra. Caméra qui, d'ailleurs, n'est pas, à ce moment-là, collée contre l'œil du personnage. Il l'a planquée sous un imperméable et on voit sortir la caméra. Donc, il filme sans avoir l'œil dans l'œilleton. En tout cas, c'est ce qu'on suspecte. Et puis après, il y a la scène suivante, où il est dans son espèce de chambre noire et où il visionne les rushs qu'il a tournés, donc la séquence qu'on a vue juste avant. Et les rushs, évidemment, n'ont pas de son et sont en noir et blanc. Or, l'image qu'on a vue avant était en couleur. Ce qui fait que Michael Powell, en fait, nous dit t'étais pas en train de regarder à travers la caméra, t'étais pas non plus en train de regarder à travers les yeux du gars, t'étais en train de regarder à travers la fusion des deux regards. Et ça, c'est un truc très De Palmien. L'idée d'avoir deux régimes d'images qui ont l'air différents et qui en fait fusionnent, c'est quelque chose qui va le travailler beaucoup dans sa filmographie. À ce moment-là, non seulement le film nous fait comprendre qu'on était bien en train de regarder la scène à travers les yeux du personnage principal, et on n'a pas envie de vivre ça, et en plus de ça, il est clairement en train de nous dire que la caméra est une extension organique de son propre corps, donc il appuie dès le début la métaphore phallique qui sera filée dans tout le reste. Et vraiment, c'est d'une audace spectaculaire.
Et pour prolonger, c'est vrai que cette croix qui est purement dans le langage cinématographique, elle est quand même assez proche de ce qu'on peut avoir d'une lunette de sniper.
Oui, complètement. C'est la visée d'un fusil.
D'un fusil, parce que le sniper...
C'est un viseur.
C'est un viseur. Et donc, par extension, encore une fois, une arme. Et ça, c'est... Moi, je trouve que le film, on pourrait épiloguer longtemps. Je trouve que c'est un film...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Presque anachronique. C'est un film tellement novateur qu'il en devient hors de toute époque.
Oui, complètement. Ouais.
Je trouve que c'est une espèce d'anomalie absolument géniale.
J'ai une citation de Scorsese, parce que donc Scorsese, on l'a dit, a adoré le film, l'a reprojeté en 79 au New York Film Festival, 20 ans plus tard, donc face à un nouveau public qui n'avait jamais vu le film. Il a une citation que je trouve intéressante parce qu'elle va de pair avec un truc qui m'a vraiment sauté aux yeux, quand bien même j'ai pas vu Le Chausson Rouge. Il disait à l'époque: j'ai toujours pensé qu'avec Le Voyeur et 8,5 de Fellini, tout ce qu'on pouvait dire sur le cinéma, sur la manière d'aborder le cinéma, l'objectivité, la subjectivité de la démarche et le mélange des deux avait été dit. 8,5 saisit ce qu'il y a de prestigieux et de jubilatoire dans le travail de la mise en scène, tandis que Le Voyeur en montre la brutalité et le viol perpétré par la caméra. Il y a un truc que moi je trouve fascinant, quand bien même je n'ai pas vu Les Chaussons Rouges, c'est que je sais que l'actrice principale c'est Moira Scherer, et je sais qu'il y a un parallèle à faire entre Le Voyeur et Les Chaussons Rouges sur la société du spectacle, entre guillemets, sauf que Les Chaussons Rouges ça va être l'aristocratie et Le Voyeur c'est vraiment un réalisateur de bas étage qui va vraiment prendre des photos de pin-up pour le tabac du coin, et voilà. Sauf qu'il y a une scène où à un moment le personnage du voyeur est sur un plateau de tournage et où un réalisateur va demander à Moira Scherer, qui est donc une actrice sur le plateau, de danser jusqu'à ce qu'elle-même tombe de fatigue. Et j'ai vraiment eu cette impression de Powell qui me dit en fait, c'est quoi le pire, le gars qui tue avec sa caméra ou le gars qui fatigue tellement cette femme et cette actrice qu'elle en tombe par terre et qu'on regarde et que t'as limite le réalisateur qui fait ah, ça va.
Il les met en parallèle, ouais.
Mais évidemment, et en fait il y a tout un discours au-delà du côté évidemment freudien, phallus et autres qu'évoquait Simon, il y a un réel discours sur le cinéma. Pas juste la caméra et l'image, le cinéma. Qu'est-ce que c'est que le cinéma ? Qu'est-ce que c'est que c'est ? Ce truc-là, par exemple, un détail tout bête, mais j'ai fouillé, il se trouve que... donc, on le disait, ça se passe à Sceaux, et il y a notamment des séquences qui sont tournées à côté d'un cinéma qui était connu à Sceaux, pour être le cinéma où il y avait toutes les projections presse à l'époque. Évidemment que, en fait, je dis tout ça, c'est des détails, mais en fait, ça dit quelque chose. d'un côté, on a, je pense, le public qui n'a pas aimé le côté je n'ai pas envie d'être à cette place-là, je n'ai pas envie de voir ça, je n'ai pas envie qu'on me mette dans cette situation de jouer à travers les yeux à travers le regard du tueur. Et puis, je pense qu'il y avait les critiques et les autres cinéastes qui disaient « Ah ouais, donc pour toi, le cinéma, ça peut être aussi violent, en fait. Moi, je ne vois pas ça comme ça. » Et je pense qu'en fait, il y a cette double lecture qui est vraiment fascinante. Parce qu'en fait, si on regarde le film avec ce point de vue-là, eh ben, de A à Z, ça fonctionne.
Bien sûr, oui. Bah, le cinéma est un objet de fascination qui transforme les humains en matière première. En matière première, corvéable à merci, et qui, au final, finissent tous, y compris nos protagonistes, hein, à être sacrifiés ou sacrifiables pour le dieu, pour la machine cinéma, littéralement.
Et tout a l'air dangereux. La lumière du projecteur a l'air aveuglante. Je ne vais pas spoiler, mais les outils autour de la caméra ont l'air douloureux. Enfin, tout ce qui touche au cinéma, même la pellicule, t'as l'impression qu'elle va te couper, quoi.
Mais je pense que vraiment ça a dû certainement jouer dans la réception du film. Puis il faut se remettre un peu dans le contexte. Déjà, bon, faut se remettre dans le contexte de l'époque d'un point de vue cinéphile. Faut quand même imaginer que vous allez au cinéma voir peut-être un des tout premiers films qui vous dit il y a une vraie part d'ombre dans cet art que tu admires tant, qui est littéralement l'art de la lumière et du mouvement. Il y a une part d'ombre, il y a quelque chose de dégueulasse là-dedans. Et ce qui rend le film évidemment fascinant, mais il faut le replacer même dans un contexte politique. Je pense que les gens qui nous écoutent sont nombreux et nombreuses à avoir vu ou du moins à avoir entendu parler du film Good Morning England de Richard Curtis, qui n'a strictement rien à voir avec Le Voyeur, mais c'est intéressant de parler de ce film-là. Pourquoi ? Parce qu'il nous raconte une histoire qui est bien réelle et qui nous paraît aujourd'hui complètement fantaisiste, qui est ce moment où en Angleterre, on n'a pas le droit d'écouter du rock sur la radio d'État. Pour écouter de la musique rock, qui est la musique populaire du moment, on est obligé d'écouter des radios pirates qui émettent depuis des bateaux dans les eaux internationales. Parce que si les mecs rentrent dans les eaux britanniques, ils se font arrêter. Et il y a notamment le personnage de Kenneth Branagh qui lutte dans le film de Curtis contre les radios pirates et qui est vraiment l'archétype du puritain, puant, arrogant, sectaire, vraiment un être humain détestable. Et quand on regarde ça avec un œil d'aujourd'hui, on se dit « Waouh !» C'était vraiment une autre époque. Bah, l'histoire de Good Morning England se déroule en 1966, 6 ans après Le Voyeur. C'est vous dire à quel point le film est très, 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 très en avance sur son temps. En fait, il appartient déjà à la nouvelle génération du cinéma britannique, en quelque sorte, parce que c'est aussi le moment, les années 60, où va émerger le free cinéma britannique, un cinéma beaucoup plus audacieux, beaucoup plus radical, beaucoup plus politisé aussi. Et du coup, il y a d'un seul coup ce film qui déboule et qui renverse complètement la table du cinéma britannique. Il y en aura un autre plus tard, la décennie suivante, en 1973, si je ne dis pas de bêtises, qui lui aussi sera catégorisé X, interdit, censuré pendant 35 ans, qui est le polar de... Non, c'est pas Josiane.
Oh.
C'est pas Josiane. Même si Josiane est toujours censurée en Angleterre, bien malheureusement. Josiane. Mais c'est le très 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 grand polar de Sidney Lumet, The Offense, qui va se faire dégommer la tronche par la critique et la censure et qui ne sortira pas, simplement, ou très peu. Et il a fallu attendre 35 ans après sa sortie pour que le film soit visible en France, par exemple. En salle, c'est complètement fou. Et du coup, il y a toujours eu un problème avec le cinéma britannique et la censure, mais il y a vraiment deux films qui l'ont cristallisé le plus, à mon sens, dans les années 60, c'est Le Voyeur, et dans les années 70, c'est The Offense. Si vous n'avez pas vu The Offense, c'est intéressant. D'ailleurs, intéressant, je pense, de le regarder après Le Voyeur, et de vous dire qu'il y a quelque chose d'un peu crado dans la société britannique.
En un mot, pour conseiller Le Voyeur, un petit truc chacun pour conseiller aux gens de demain le regarder. Parce que sachant qu'il n'a pas été tant vu que ça, un bon argument.
Je vais prendre volontairement un argument que j'aurais pas choisi de base, mais ce sera un peu intéressant. Moi, je trouve que le choix de l'acteur principal, Karl Böhm, de son vrai nom, Karl-Heinz Böhm, qui était surtout connu pour être l'amoureux de Romy Schneider dans les films Sissi, où il était très mignon, il avait une tête d'ange et tout, le choix de cet acteur-là pour jouer un rôle comme ça, je trouve ça absolument fascinant, parce qu'il a vraiment... On lui donnerait le bon Dieu sans confession, pour reprendre un vieux dicton, alors que vraiment pas du tout, quoi. Et je trouve que le choix de casting est super intéressant, et sa prestation est juste hallucinante.
Simon ?
C'est un des films les plus troublants et les plus excitants sur ce que c'est que le mal et le meurtre.
Arthur ?
C'est difficile, il y en a plein. Un truc qu'on n'a pas abordé du tout, enfin qu'on a commencé à aborder avec Simon, mais que du coup je vais appuyer un peu plus maintenant. Le fait qu'on voit tout du regard du tueur fait que du coup c'est un regard très masculin. Et il se trouve que l'un des articles, un des textes pionniers de ce qu'on appelait le female gaze et le male gaze de Laura Mulvey, qui est Plaisir visuel et cinéma narratif, sorti en 75, plaçait le voyeur comme étant l'archétype même de ce qu'est le male gaze. Et je trouve que quand on s'intéresse à ces questions-là, essayer de comprendre ce que c'est que le female gaze, c'est aussi comprendre ce qu'est le male gaze, et je trouve que le voyeur le définit, et je dis pas ça du tout de manière péjorative, au contraire, très bien.
Est-ce que c'était pas justement, alors petite question, est-ce qu'à l'époque où Laura Mulvey le cite comme archétype du male gaze, est-ce que justement il le cite pas sous un angle péjoratif?
Sans doute.
Parce que ça aussi.
Sans doute, mais c'est pas inintéressant. En fait, c'est pas inintéressant de regarder qu'il
c'est un film sur un regard masculin, en tout cas.
Non. Littéralement.
Je suis complètement d'accord avec le fait que, effectivement, si on s'intéresse à la question du regard masculin et de ce que ce regard peut avoir de toxique et de vampirisant, il faut passer par le voyeur. Mais je trouve que là où le film me semble tellement conscient de ça, que je m'interroge du coup sur comment il a été employé par Laura Mulvey à l'époque, parce que dans les années 70, justement, le film n'est pas encore tout à fait redécouvert et réévalué. Du coup, ce serait intéressant de relire le texte peut-être aujourd'hui sous cet angle.
Et ce qui est intéressant sur le male gaze, c'est juste que le male gaze vient de son regard à lui, vient du regard du voyeur, et on peut le voir dans certaines scènes, notamment où il va prendre en photo des filles en nuisette. Il n'y a pas réellement de ce qu'on va caractériser dans le cinéma d'aujourd'hui de male gaze. Il va pas y avoir de plan appuyé sur la poitrine de la jeune femme, il va pas y avoir de regard insistant, parce qu'en fait il y a besoin d'avoir ce contraste entre le regard du personnage principal et on va dire la caméra neutre, pour pas re-rentrer dans un débat, mais vous voyez ce que je veux dire, pour créer une vraie distanciation entre les deux regards, pour permettre aussi une respiration au spectateur. Moi j'ai juste envie de vous dire que si on s'intéresse au cinéma d'horreur et à l'histoire du cinéma d'horreur, le voyeur est tout aussi important que Psychose à mon goût, et que on ne les considère pas comme des slashers à proprement parler, parce qu'ils ne correspondent pas à la définition qu'on va faire plus tard, notamment du fait que le tueur est souvent masqué ou autre, mais par contre il va pour moi définir notamment ce rapport à la sexualité et aux troubles psychiatriques du personnage, et ça je trouve que c'est hyper important quand on s'intéresse à tout ça.
Et puis on vous a parlé il y a quelques semaines des Chambres Rouges, mm-hmm. qui parlent de snuff movies, donc ces meurtres réellement filmés qui suscitent beaucoup d'excitation sur internet, est-ce que c'est vrai, est-ce que ça l'est pas. C'est pour moi une des premières représentations de quelqu'un qui est attiré par ces snuff movies là.
Techniquement, il y a une insertion en tout cas tout est faux, mais si on le prend dans le réel, il regarde un snuff movie et nous on l'entend. C'est super intéressant.
Et sur la mélange entre la fiction et la réalité, pardon, j'arrête, mais j'avais lu beaucoup de choses sur le sujet. Il faut savoir que toutes les archives que l'on voit où le personnage du voyeur regarde des séquences de lui enfant, etc., c'est Michael Powell et son fils.
Ouais.
Donc l'insertion de la réalité dans la fiction, du snuff movie dans ce qu'est ou pas la réalité ou pas, enfin je trouve vraiment c'est un film qui est hyper riche, qu'on aurait pu encore analyser pendant, je pense, encore longtemps.
C'était évidemment un coup de cœur absolu pour toute l'équipe, et on vous conseille de le regarder. On vous a parlé donc du Voyeur de Michael Powell, qui ressort en Blu-ray 4K Ultra HD en édition limitée chez Studio Canal, avec Karl Baum, Moira Scherer et Anna Massé. C'est le temps de l'amour, c'est le temps des copains, c'est le temps de la Saint-Valentin. Et pour ce, on a demandé aux membres de l'équipe, et j'ai participé, de choisir chacun un film à vous conseiller pour le 14 février. Oh, tant de rimes.
Oui, c'est très bien écrit, bravo.
J'ai fait 3 années de lettres modernes.
Ouais, tu la racontes pas trop non plus.
Ça va, j'ai pas fait des alexandrins. Donc, tiens, vas-y, commence.
Écoute, moi, je vais retourner vers un classique, en tout cas, ce qui est pour moi un classique, Before Sunrise de Richard Linklater, sorti en 94, qui a donné lieu à 2 suites, respectivement, sorties à 9 ans d'intervalle, donc Before Sunset, puis Before Midnight. Pourquoi Before Sunrise? Parce que ce que, pour moi, Linklater réussit à accomplir avec ce film-là, c'est un truc qui est tout bête et qui est pourtant tellement, tellement difficile et tellement casse-gueule, c'est qu'il arrive à ramener à son essence pure, un très vieil archétype de l'écriture d'histoire qui date depuis littéralement la nuit des temps, qu'on appelle en anglais, et ça a d'ailleurs donné le titre du premier long de Léos Carax, A Boy Meets a Girl.
Ouais.
Voilà, point. C'est exactement ce qui se passe. C'est l'histoire d'un touriste américain, Jesse, joué par Ethan Hawke, qui n'a jamais été aussi beau que dans Before Sunrise, qui va rencontrer dans un train Julie Delpy, ou plutôt Céline, qui n'a jamais été aussi belle que dans Before Sunrise. Et les deux vont se parler, apprendre à se connaître et se balader dans les rues de Prague, puisque le film se déroule à Prague. Et évidemment, il y a du désir qui va naître. Je vous l'ai dit, le film a eu deux suites qui vont continuer d'explorer la relation de couple, ou peut-être son absence. C'est plus compliqué que ça, mais vous verrez si vous voyez la trilogie. Et je trouve que c'est vraiment une suite de films hyper intéressant, très influencé par un cinéma d'auteur qui pourtant n'est pas le cinéma d'auteur vers lequel je me tourne le plus d'habitude, qui est vraiment celui d'Éric Rohmer. Il y a beaucoup, beaucoup de Rohmer dans le cinéma de Linklater et en particulier dans ces trois films-là. Mais je trouve que l'alchimie fonctionne parfaitement bien. C'est vraiment des films doudous qui sont très émouvants. Et puis, en plus, et ça c'est super intéressant, je pense que ça peut vous aider à vraiment vous attarder sur l'une des qualités exceptionnelles de ce film-là, et de ces deux suites, que sont l'écriture des dialogues. Il faut savoir que Ethan Hawke et Julie Delpy ont participé avec Linklater à l'écriture des dialogues de leurs propres personnages et ont injecté beaucoup d'eux-mêmes, et ça participe à l'esprit d'authenticité et de réalisme des films. Et puis voilà, pour moi c'est la plus belle histoire d'amour des années 90. Mon préféré c'est le deuxième, je trouve que le moins bon c'est le 3, mais ça reste malgré tout un film.
Le deuxième c'est à Paris, c'est ça?
Ouais, le deuxième c'est à Paris,
ouais.
c'est magnifique, ouais. Voilà, donc je vais te dire un avis, et surtout Before Sunrise et Before Sunset sont vraiment super intéressants pour la Saint-Valentin spécifiquement, donc allez-y, jetez-vous dessus.
Arthur.
Moi, au début, je voulais vous parler d'un gros coup de cœur que j'avais eu pendant le confinement sur un film de David Lean qui s'appelle Rencontre brève, mais en fait, je me suis dit que ça faisait un peu prétentieux. Donc, je vais plutôt vous parler d'un film indé qui n'est pas assez connu, je trouve, alors qu'il est l'un des premiers films où on découvre vraiment Rashida Jones en dehors de The Office, et où on découvre Andy Samberg avant qu'il soit identifié comme étant juste le couillon de Brooklyn Nine-Nine, même si je trouve que ce qu'il a fait avec son groupe est absolument incroyable. Si vous avez jamais vu Popstar Never Stop Popping, c'est exceptionnel. C'est un film qui s'appelle Celeste and Jesse Forever de Lee Tollenkrieger, qui est sorti en 2012, qui est actuellement disponible sur Canal+, si ça vous intéresse, qui casse un tout petit peu. C'est pas un film révolutionnaire du tout, mais c'est un film bonbon et doudou qui fonctionne très bien sans rentrer dans les clichés de l'archétype Love Actually, Coup de foudre à Notting Hill, parce que c'est un couple qui est ensemble depuis le lycée, qui sont mariés très tôt et qui décident qu'en fait ils sont devenus plus potes que amants, et du coup ils divorcent, et du coup toute l'action se déroule sur après le divorce, en fait ils s'aiment bien encore un peu quoi, mais en même temps est-ce que ouais j'ai quand même envie de continuer ma vie. Bref, c'est vraiment très beau, et puis Andy Samberg et puis Rashida Jones.
Et Rashida
Jones. Donc voilà, c'est tout doux, c'est bonbon. Et pour la Saint-Valentin, je pense que ça fait bien son effet.
Simon, tu veux que je fasse le mien d'abord ou tu veux y aller?
Ça m'est égal, ce qui te sied le mieux.
Et il va troller de fou, lui.
Vas-y.
Bah non, parce que je vais te parler d'une histoire d'amour impossible et éternelle, figure-toi. Ils se sont rencontrés, ils se sont aimés, mal aimés, dans un contexte terrible, un contexte guerrier notamment, qui les a finalement séparés et les a empêchés de rester unis. Et puis quelques années plus tard, ils se retrouvent et là, ils s'embrassent de nouveau et ils repartent dans cet amour impossible, tumultueux, scandaleux. En effet, lui est portier de nuit, pas elle. Ça s'appelle Portier de nuit, c'est une histoire d'amour pas comme les autres. Je vous le recommande pour la Saint-Valentin, c'est idéal, surtout si vous venez de vous séparer. Voilà. Et si ça n'est pas encore le cas, normalement à la fin du film, ce sera le cas. De Liliana Cavani. Non, sérieusement, c'est un très très grand film. Un film compliqué. Parce que c'est donc l'histoire d'amour sadomasochiste entre une ancienne victime des camps de concentration et un ancien officier SS. Pas facile. Mais un film donc qui est provocateur, scandaleux, qui nous interroge aussi parce qu'il parle justement de ces territoires troubles, horribles, où commence la violence, où commence l'emprise, où commence l'obsession, où commence la perversion, comment est-ce qu'elle peut se vivre ou pas. Voilà, Portier de nuit.
Un des plus grands rôles de Charlotte Rampling.
Ouais.
De très loin.
Un des très grands rôles, en effet, de Charlotte Rampling. Une histoire d'amour monstrueuse, comme il peut y en avoir, et traité comme une histoire d'amour monstrueuse. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas non plus dans un film qui déploierait une espèce de fantasmatique idiote du scandale et de la provocation. C'est un film qui s'interroge sur les limites des sentiments humains, qu'est-ce qui les engendre, est-ce qu'ils peuvent perdurer et survivre. Voilà, Portier de nuit, une belle histoire d'amour avec du cuir.
Pour l'avoir découvert il n'y a vraiment pas longtemps, voyez-le à la Saint-Valentin, que si vous êtes très, très serein sur votre couple,
Vraiment.
J'aurais dû te laisser finir en fait. Parce que moi je vais parler vraiment d'un film culte. Vous savez à quel point genre, je suis pas trop comédie romantique, c'est pas vraiment mon truc. Mais il y en a une que j'aime de tout mon cœur et j'ai l'impression que la nouvelle génération l'oublie un peu parce que c'est sorti en 1989 et que ça y est, ça commence à être un peu oublié parce que Billy Crystal, c'est plus vraiment quelqu'un de hype, parce que Meg Ryan, elle a pas joué depuis 30 ans, parce que le film commence à tomber un peu en désuétude, mais pour moi, quand Harry rencontre Sally, en fait, vous le connaissez tous pour cette fameuse scène où Meg Ryan simule un orgasme dans un diner, mais en fait, le film est vraiment, vraiment plus complexe que ça. Il est réalisé par Rob Reiner, que vous connaissez sans doute pour Stand By Me notamment, et là, il a réalisé un film qui a été écrit par Nora Ephron, qui a été pendant longtemps journaliste au New York Times, et je trouve qu'on sent cette parfaite alliance parce que ça parle d'un homme et une femme qui n'arrivent jamais à se comprendre pendant des années et qui ont toujours cette espèce d'alchimie qu'ils n'arrivent jamais vraiment à transformer. Il y a cette espèce de féminisme chez Meg Ryan qui est déjà un petit peu précurseur et qui fait qu'elle a une espèce de méfiance de la part des hommes et lui qui est encore ancré dans une espèce de machisme. Et je trouve que c'est un des rares films où on sent qu'il est écrit par une femme et réalisé par un homme et qu'il y a une parfaite alchimie et mésentente. Je trouve que ce film, il est à la fois doux et amer, il est très facile à regarder parce qu'il est drôle, parce que c'est bien joué. C'est pas le film le mieux réalisé du monde, mais par contre, il est incroyablement monté. Et en plus, c'est un très bon rôle de Carrie Fisher. Elle fait un second rôle absolument incroyable. Mmh. Et je crois que dès que j'ai un petit coup de blues, moi, quand Harry rencontre Sally une fois par an, et particulièrement pour la Saint-Valentin... C'est parfait.
Et Billy Crystal, il arbore un des plus beaux pulls du monde.
C'est clair.
Et je rêve d'avoir ce pull.
Mais
vraiment.
Moi aussi, et je n'en trouve pas, parce qu'ils sont tous cheap maintenant, les gros pulls en laine blanc.
Ah, mais
ça
je veux ce
plus.
Gros pull en laine blanc. Mais tellement. Et je vais faire des photos de mauvais goût devant des cheminées. Enfin, avec
alors
juste
non,
le pull.
Toi, tu trolles. Moi, je suis premier degré vraiment.
Ah non, mais si, mais moi vraiment, j'adore le pull, quoi. Et par contre, je vais vraiment faire les photos.
Parenthèse, si vous n'avez jamais vu de film de Rob Reiner, penchez-vous dessus, parce que c'est un cinéaste assez intéressant.
Ouais, et il joue le père de Jess dans New Girl. Voilà.
C'est vrai.
Voilà, voilà. Bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vendredi, nous ferons une excursion dans le pan féminin du Spider-Verse. On pleurera à chaudes larmes devant la beauté de Paul Mescal et d'Andrew Scott. En tout cas, je suis sûre que je le ferai. Et j'imagine plein d'autres choses parce que regarder des films, c'est notre vie. Bon, bonne semaine les amis et gloire au passé.
Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.